Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, et merci d'avoir choisi Canal Académie, la radio sur Internet qui donne la parole aux académiciens. Cette émission vous propose un voyage dans les arts et les images, puisque tel est le sous-titre du livre de Marc Fumaroli, intitulé « Paris, New York et retour », publié au début de l'année 2009 aux éditions Fayard. Monsieur Fumaroli, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'être venu jusqu'à notre studio. Nous avons grand plaisir à vous accueillir. Chacun sait que vous êtes membre de l'Académie française, où vous siégez depuis 1995 sur le sixième fauteuil, précédemment occupé par Eugène Ionesco. Mais il convient de ne pas omettre de rappeler que vous êtes aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, depuis 1998, au fauteuil laissé vacant par l'historien Georges Duby, et membre de plusieurs académies étrangères très prestigieuses, et que vous comptez également parmi les académiciens professeurs au Collège de France. Et vous me pardonnerez, j'espère, cette présentation trop brève pour nous permettre...
Trop longue, vous trouvez,
pour nous permettre de pénétrer sans attendre dans le cœur de votre livre, Paris, New York et retour. Peut-être, si vous me le permettez, oserais-je vous demander une confidence sur votre art d'écrire. À la page 178 de votre livre, vous écrivez, c'est à propos de l'architecture américaine, « Je me suis longtemps borné dans mes pérégrinations et séjours nord-américains à noter, partout où je le retrouvais, cette note persistante de classicisme architectural. » Et dans le tout dernier chapitre que vous intitulez « Bref, péroraison », vous écrivez « J'ai voyagé des deux côtés de l'Atlantique, dans le monde de la vue, parmi les images, les arts et les livres, et je me retrouve devant cette mosaïque de notes dont il me faut maintenant m'éloigner pour en découvrir, s'il se peut, la figure d'ensemble. » Est-ce à dire, M. Fumaroli, que cette manière de prendre des notes vous est habituelle, qu'elle constitue les prémices de votre écriture et que ce livre est fait de plusieurs années de notes ?
Notes, il ne faut pas les prendre au sens propre du terme. En fait, je ne prends pas beaucoup de notes. J'en prends, mais enfin, j'en prends pas énormément. Je ne tiens pas un journal. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce livre, que j'intitule en troisième lieu « Journal », ne l'est que également à titre métaphorique. Il n'y a pas, en général, un journal a des entrées. Le 29 novembre,
oui.
Le 8 janvier... etc. Non, là, je n'ai aucune date. Simplement, le lecteur, je pense, dans cette reconstitution, en quelque sorte, amplifiée sans doute, de mes expériences pendant 2 ans, c'est-à-dire 2007-2008, je dis bien amplifiée et même, dans une grande mesure, reconstituée. Je pense que le lecteur, quand même, sent le passage du temps. Voilà. C'est le seul trace de la forme journal qui reste dans ce livre, c'est qu'on sait, de temps en temps, je donne une indication dans ce sens, que l'on est dans l'automne 2007, qu'on est en janvier 2008 et que l'on est en octobre 2008, puisque en octobre 2008, cet octobre noir est un peu le butoir du livre. Auparavant, tout semblait aller... comme un conte de fées, et ensuite tout commence à se défaire bizarrement et même cruellement, et donc apporter, si j'ose dire, une sorte d'interrogation sur l'avenir du système que j'ai décrit et que naturellement je n'aime pas beaucoup. Donc son avenir ne m'intéresse, mais plutôt en souhaitant qu'il s'affaiblisse ou qu'il se redresse. Voilà, vous avez trouvé le mot.
Dans votre premier chapitre, et c'est l'un des fils conducteurs de votre voyage, justement, c'est page 578, vous réveillez dès le début une notion largement oubliée, la notion antique d'otium. Ceux qui n'ont pas fait de latin sauront que ça s'écrit O-T-I-U-M, et celle de la contemplation féconde, c'est-à-dire du loisir lettré, au fond. Et alors, pouvez-vous redéfinir cette notion ? Pourquoi l'avoir remise en valeur aujourd'hui ? Sans doute parce qu'elle est très absente.
Parce qu'il me semble que nous sommes dans un univers dont les États-Unis, évidemment, sont, je dirais, la figure de proue, où le travail, il y a même un mot en anglais qui est le work alcoolisme, l'espèce de compulsion, en quelque sorte, à réussir, à se extraire de soi toutes les énergies possibles pour parvenir à une position, à dévorer, en quelque sorte, même le temps de loisir, étant donné que, dans ces conditions, comme on ne peut pas trouver en soi les ressources du temps de repos, on les reçoit de l'extérieur, tout fait, et donc, en fait, on sort d'une industrie, si j'ose dire, qui est l'activité professionnelle, à une autre industrie, qui est le divertissement, qui sont toutes les formes du divertissement préfabriqué, du divertissement usiné. Je n'exclus pas même le cinéma, qui peut parfois, évidemment, transcende cette condition de travail en série, et qui se hisse jusqu'à l'art. Il n'y a pas de doute, il y a des films qui sont de très belles œuvres d'art. Mais c'est assez rare, il faut bien le dire. L'immense quantité de films, comme l'immense quantité de spectacles, comme l'immense quantité de musique même produite aujourd'hui, relève du travail à la chaîne et de la préfabrication ciblée pour des publics différents. Alors effectivement, cette question, je suis parti de ce constat, et je me suis demandé s'il n'y avait pas, en quelque sorte, dans les temps anciens, ou même dans les temps relativement récents, même avant 14, si j'ose dire, ou même peut-être entre les deux guerres, s'il n'y avait pas, en Europe, et peut-être même aux États-Unis, mais surtout en Europe, des traces de ce que les anciens appelaient le loisir. Alors le loisir, pour les Grecs, qu'ils l'appelaient scolaire, nous en avons fait l'école, parce que c'est un moment dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille où il a la disponibilité de se cultiver, d'apprendre, de se nourrir de toutes sortes de substances qu'ils vont ensuite, pendant leur vie active et pratique, alimenter justement leur temps de loisir et peut-être même ensuite leur temps de retraite. En fait, il y a deux loisirs, l'un au début de la vie, l'un à la fin, et puis dans la vie active, il y a effectivement ces intervalles de loisirs où il faut choisir entre le loisir que l'on se donne et le loisir que l'on reçoit passivement. Alors, cette notion de loisir chez les anciens, pour en venir à eux, mais aussi, nous allons le voir dans la tradition chrétienne, est très importante. D'abord parce qu'elle est liée, je dirais, à la contemplation. C'est dans le loisir que l'on prend du repos, que l'on prend du recul. C'est dans le loisir que l'on lit, c'est dans le loisir que l'on converse, pour le plaisir de converser, pour le plaisir aussi de s'instruire quand on converse avec des gens qui savent, qui ont une expérience dont on est privé. Et donc, le loisir n'est pas un moment d'inertie, un moment de paresse, un moment de passivité. C'est un moment, au contraire, d'activité, peut-être encore plus grande que dans le temps des affaires, si j'ose dire, ou le temps du travail, ou le temps de la vie politique, comme c'était le cas pour les Athéniens. Mais c'est aussi, en quelque sorte, le temps du travail de l'esprit. Voilà. Alors, au fond, ce que je reproche à la société contemporaine, sous cet angle-là, naturellement, on pourrait la prendre sur bien d'autres angles, mais enfin, j'ai choisi cet angle-là, il faut que je m'y tienne, c'est qu'elle elle prétend gorger ses citoyens de culture, et en fait, le plus souvent, il s'agit d'un divertissement préfabriqué, de tous ordres d'ailleurs, parce que la culture met tout sur le même plan, depuis les sports commercialisés jusqu'aux expositions plus ou moins tapageuses, aux fêtes innombrables, aux technivals pour les spécialement consacrés ou organisés par des jeunes, etc. Alors, si vous voulez, ma méthode, c'est d'être un ancien, si j'ose dire, qui a cette notion d'otium que les Romains ont reprise de la scolae grecque et qu'ils ont approfondie dans leur, par leurs philosophes ou par leurs leur sages, et de me promener aujourd'hui et de constater que cet otium, il est rare.
Mais il existe néanmoins.
Ah ben il existe,
heureusement. Il n'était pas réservé à une élite aristocratique du côté... Il était aussi plébéien.
Il faut bien reconnaître que c'est une notion qui est liée en général à l'existence d'une classe sociale qui ne travaille pas pour vivre. Ça, c'est le cas antique. Alors la transition a été faite par les moines, en fait. Les moines,
voilà, la vie contemplative a pris le relais.
Qui ont choisi, évidemment, de mener à plein temps une vie contemplative, mais qui s'adonne au travail manuel. Donc, les moines réhabilitent le travail pour l'homme libre, pour ce que vous appelez, ou ce que vous venez d'appeler l'élite. Et il n'y a pas de doute que ça a été une forme de révolution dans l'histoire de l'Occident que cette réhabilitation du travail manuel par les moines. Mais le lotium, proprement dit, c'est vraiment à la Renaissance qu'il a pénétré de nouveau dans l'existence de l'aristocratie et puis aussi de la classe lettrée, si j'ose dire, des gens de lettres, des humanistes. Et on peut dire que son âge d'or, ça a sans doute été le 18e et une bonne partie du 19e, il faut bien le dire, parce que le romantisme a renversé la théorie révolutionnaire selon laquelle l'homme moderne doit être un citoyen à plein temps. Alors, on a compris que, en fait, le citoyen moderne ne pouvait pas être un citoyen à plein temps comme l'était l'homme libre de la société athénienne, de la cité antique, mais qu'il devait avoir une vie privée, il devait avoir en quelque sorte des intérêts personnels qui l'occupent assez pour qu'il ne soit pas entièrement mobilisé, si j'ose dire, par la vie publique ou la vie politique ou la vie des affaires. Donc je me suis livré à une espèce de, je ne dis pas une historique, mais à quelques sondages pour repérer la place plus ou moins grande, plus ou moins généreuse du loisir
fécond voilà,
dans les différentes sociétés que nous avons traversées. Alors, vous avez parlé d'aristocratie pour l'Antiquité. Il n'y a pas de doute que les moines étaient à leur manière une aristocratie. Il n'y a pas de doute non plus que les honnêtes gens du XVIIe, qu'ils soient des nobles ou qu'ils soient des gens de lettres, a formé aussi une aristocratie, et que la notion d'égalité, si vous voulez, a, dans une certaine mesure, plus ou moins interprété brutalement, compromis, je veux dire, l'avenir de cette attitude vis-à-vis de l'existence. Mais je dois reconnaître aussi que si on pense à la classe paysanne, par exemple, qui a donné tant d'écrivains, ça n'est pas du tout un lieu stérile pour la littérature. En général, les écrivains qui sortent de la souche paysanne sont des gens qui ont le sens du silence, qui ont le sens de la lenteur,
de la contemplation,
de la contemplation. Donc, ça n'est pas
un privilège. Lorsque vous visitez la Villa des Mystères en Italie, vous dites, page 64 de votre livre, avoir respiré l'odeur de l'otium, justement. C'est une odeur que vous ne respirez pas à New York ni à Paris.
Je la respire certainement chez moi d'abord, et puis je la respire aussi chez beaucoup de mes amis. Il se trouve que là, je dirais que les ruines de cette villa, le sujet de ces fresques qu'il la décore, font qu'on a le sentiment presque charnel, en quelque sorte, de cette quiétude intelligente et méditative.
Pour apprécier cet otium qui, au fond, devient un plaisir clandestin, c'est ce que vous dites, il faut de la lenteur et de l'attention. Et vous citez Paul Valéry, « Se ménager du temps est nécessaire pour l'esprit. Pour l'esprit, il faut du temps perdu. » Dans votre vie, monsieur Fumaroli, vous accordez du temps perdu pour la beauté, je suppose.
Le temps perdu...
N'est jamais perdu, finalement, mais...
Tout dépend. Proust parle de temps perdu, et on se rend compte à la fin que ce temps perdu a été extraordinairement fécond, puisque elle a mûri le narrateur de la recherche au point qu'il a été capable d'écrire ce magnifique roman. Donc le temps perdu, ça peut être sur le moment une simple promenade, une rencontre, une conversation, ou tel détail de cette conversation qui, curieusement, s'imprime en vous et qui ensuite germe en quelque sorte comme des semences que l'on n'a pas vues jeter au sol et qui ont poussé inconsciemment et qui vous donnent tout à coup des surprises assez heureuses, des découvertes, des ouvertures en quelque sorte sur des questions qui vous hantent et que vous n'aviez pas résolues par vous-même. Donc le temps perdu pour moi, c'est tout ce qui n'est pas systématique dans les opérations de l'esprit. C'est tout ce qui, au fond, attend un peu, mais non pas de l'usinage, d'un divertissement préfabriqué, mais de ces heureux hasards, de ces vers donnés, comme disait Valérie, qui vous apportent comme une sorte de des repères que vous n'auriez pas trouvé si vous vous étiez contenté de suivre un plan et de travailler d'une manière méthodique vers une fin bien déterminée. Alors, je pense que dans cette part de flou, en fait, cette part laissée à l'improvisation ou à la surprise, il y a quelque chose de profondément fécond que néglige peut-être des esprits dont l'activisme se veut très méthodique et qui manque souvent l'objet même qu'ils poursuivent à force d'ignorer que ce qui est vivant, ce n'est pas toujours ce qui est prévisible.
Je vous propose de marquer une courte pause et d'écouter l'une de ces musiques que Marc Fumaroli, je crois, apprécie beaucoup, ces musiques du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et on se retrouve dans un court instant. Nous revenons dans notre studio en compagnie de M. Marc Fumaroli de l'Académie française. M. Fumaroli, j'ai cru remarquer dans votre livre qu'il y avait deux mots qui vous agaçaient, qui vous irritaient, qui vous rendaient presque furieux. C'est le mot « contemporain » quand il est appliqué à l'art et c'est le mot « plasticien » à la place d'artiste. Est-ce que je me trompe ?
Oui, je crois que vous avez raison. Mais le mot « contemporain » appliqué à l'art, c'est évidemment un peu comme l'adjectif « vivant » appliqué aux mêmes arts. Alors, on vous parle pompeusement d'art contemporain avec un grand A ou des arts vivants. Alors, d'abord, l'art contemporain, tous les arts ont été, dans chaque époque, contemporains.
Forcément,
c'est
oui.
C'est une caractéristique extrêmement étrange. Et d'autre part, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce qu'on appelle art contemporain n'est pas du tout l'art des artistes qui vivent aujourd'hui en même temps que nous, mais un certain type d'artistes soutenus par de puissantes galeries, encouragés par les ministères de la culture, présents et même omniprésents dans les biennales, dans les expositions de la force de l'art, etc. Et ces artistes correspondent à une certaine forme de provocation qui passe en fait pour être le fin du fin de ce qu'on peut faire dans cet ordre aujourd'hui. Alors les autres, des peintres disons, plus calmes, des peintres de l'otium, si j'ose dire, et non pas de cet activisme provocateur, n'ont pas droit de figurer dans l'art contemporain. Ils n'ont pas non plus derrière eux les puissances financières qui collectionnent, qui promeuvent, qui publicisent et qui achètent. Alors, donc, il me semble qu'il est bon de faire contrepoids avec le peu d'énergie et le peu de force que l'on peut avoir pour faire comprendre qu'il y a aussi des peintres aujourd'hui qui ne sont pas contemporains, si j'ose dire, au sens que je viens d'indiquer. Alors, je compléterai avec la critique de la notion d'art vivant. L'adjectif vivant est exactement comme l'adjectif contemporain. Il est tautologique. Un art est vivant ou il n'est pas. L'art du XIIe siècle était vivant. L'art pompier du XIXe était vivant. Alors, c'est une indication extrêmement neutre, comme le mot contemporain. Mais sous-tendant ces deux expressions, il y a l'idée que, au fond, tout le monde peut être artiste. Et que les artistes contemporains sont simplement ceux qui, au lieu d'avoir droit au quart d'heure de célébrité que promet Varol à tout le monde, ont le droit à, disons, 10 ans de célébrité jusqu'à ce qu'on s'en fatigue et qu'on les remplace par d'autres. Alors voilà, j'ai l'impression que ces deux adjectifs sont indicateurs ou sont des symptômes d'une conception extrêmement frivole, en fin de compte, des arts, et d'une conception qui malheureusement se substitue à l'idée classique, en fin de compte, d'art, qui suppose des règles, un métier, une aventure spirituelle, si j'ose dire, et non pas tout cet appareil extrêmement compliqué, à la fois économique et publicitaire, qui entoure et qui dévore même, à certains égards, les artistes dits contemporains.
Dans l'index des innombrables personnes que vous citez dans votre livre, toutes époques confondues, j'ai noté peut-être que certains semblent vous accompagner plus fréquemment ou plus volontiers. Baudelaire, par exemple, Valéry, que vous citez beaucoup, et Saint-Augustin. Un petit mot sur chacun de ces personnages.
Oui, c'est vrai que j'ai pris en somme ce que Barrès appelait des intercesseurs. Le principal, c'est certainement Baudelaire. Parce que j'ai le sentiment, j'ai même la certitude, qu'il est l'esprit qui a le mieux compris ce que gardait en réserve, en somme, le monde industriel pour les arts traditionnels. Il a parfaitement vu que l'invention de la photographie, et il n'a naturellement pas assisté à la naissance du cinéma, mais on a l'impression qu'il l'a pressenti. Et il a bien vu que là, les arts étaient, en quelque sorte, avaient un choix de vie ou de mort très difficile et qu'il n'avait jamais connu sous cette forme auparavant. Et d'autre part, évidemment, Baudelaire est certainement celui aussi qui a le mieux médité sur la notion de modernité, sur la notion de beauté. Et il est vraiment la boussole qu'il faut avoir en main pour se promener dans cet univers qu'il a vu le premier, en fait, qu'il a prévu le premier. Et puis Valéry, qui est aussi intelligent que Baudelaire, si j'ose dire, ce sont deux poètes très intelligents, c'est peut-être même parmi tous les poètes les plus intelligents, justement parce que ils sont contraints, malgré le fait que la poésie est née, si je dire, pour louer, pour célébrer, ils sont contraints d'être critiques. Ça, c'est très étrange. Ce sont des poètes qui, en fait, sont contraints de critiquer leur époque et de la critiquer d'une façon que même les politiques les plus opposants, si j'ose dire, ne sont pas capables de formuler à ce degré de cruauté et de violence, parfois. Valéry est terrible dans ses analyses, dont j'ai donné un certain nombre d'exemples dans mon livre, sur les comportements, sur les préférences, sur les lâchetés morales et spirituelles auxquelles la modernité convie ces heureux citoyens. Quant à Saint-Augustin, évidemment, je ne pouvais pas l'éviter, bien que j'y sois très attaché. je ne pouvais pas l'éviter parce que c'est évidemment quelqu'un qui fait un peu peur, si j'ose dire. C'est un tel monument de la pensée chrétienne. Mais j'ai dû tout de même, sinon, dresser ce monument dans mon livre, parce qu'il aurait éliminé tout le reste. Mais alors j'ai fait contourner un peu le lecteur autour du De Trinitate, autour des confessions. Il me semble que chez saint Augustin, la notion d'image de l'homme, image de Dieu, si vous voulez, est portée à un tel degré d'autorité. Cette notion est dans la Bible, mais elle n'y joue pas un rôle considérable. Alors que dans la théologie augustinienne, la notion d'image devient un concept absolument capital pour comprendre les relations internes à la Trinité et aussi les rapports du divin, si j'ose dire, de la divinité, avec cette étrange image qu'elle s'est elle-même forgée et qui s'est elle-même auto-détruite, si j'ose dire. Alors, je crois qu'il fallait que j'aborde cette théologie augustinienne de l'image pour faire comprendre comment le christianisme, qui par ailleurs peut avoir été souvent iconoclaste, ennemi des images, comme détournant en quelque sorte de Dieu, peut aussi, en d'autres circonstances et dans une autre interprétation, être le plus grand ami des images, justement parce que le Dieu dont il est en quelque sorte le croyant est un Dieu qui a choisi de se montrer, qui a choisi de se faire voir, le Dieu qui a un visage, qui a un visage humain même, qui a un visage, et donc la notion d'image se lie à la notion d'incarnation. Et là, on est dans une tradition qui est celle de l'Église romaine, mais aussi celle de l'Église byzantine. Et alors, une des idées que j'ai suggérées dans ce texte, c'est que ce sont deux familles d'images chrétiennes très différentes, parce que l'une fait confiance à l'artiste pour, en quelque sorte, atteindre le fidèle, l'édifier, le convaincre, l'instruire. Et l'autre, au contraire, projette l'image dans un ordre tel, quasiment théophanique, que la main humaine n'est pas considérée comme l'instrument qu'il a proposé.
C'est l'icône, des icônes,
l'icône
oui.
Est comme l'Eucharistie, si vous voulez, comme les reliques. Elle est chargée de présence divine, alors que l'œuvre d'art occidentale, même lorsqu'elle est dans une église, même lorsqu'elle est en quelque sorte liée étroitement à la liturgie, lorsqu'elle instruit le peuple chrétien réuni là, elle ne prétend pas être le lieu, enfin l'habitacle du divin. Les icônes peuvent pleurer, les icônes peuvent faire des miracles, exactement comme les reliques. Mais un tableau, même s'il est signé Duccio ou s'il est signé Giotto, ce tableau religieux, j'entends.
On ne lui attribue pas
cette... On ne lui attribue pas cette force. Il est là simplement pour, d'abord, pour s'imprimer dans votre mémoire et pour vous amener, effectivement, à réfléchir sur ce qu'il montre. Et cela, c'est une forme de pédagogie, si vous voulez, supérieure, sans doute, une sorte d'éloquence sacrée, supérieure, sans doute, mais ça n'est pas, évidemment, le rapport quasiment mystique que l'orthodoxe peut établir avec l'image sainte de type iconique.
Avant de nous quitter, Marc Fumaroli, je voudrais revenir au titre de votre livre, Paris, New York et retour. Il me semble que vous déplorez que la France et que Paris s'évertuent et s'épuisent à imiter New York et les États-Unis et que, ce faisant, elle ne répond pas à son identité profonde. Pouvez-vous nous développer cette partie de votre ouvrage qui, je crois, en constitue
le
cœur ?
Je pense que c'est un des grands ressorts, si vous voulez, qui m'ont fait écrire ce livre. C'est la conviction que non seulement la France, mais l'Europe a une longue histoire qu'elle a derrière elle et dans son propre sein, si j'ose dire, vivant, un peu comme, pour reprendre l'adjectif cher à ces nouveaux artistes, un, patrimoine artistique, un patrimoine spirituel extrêmement nourrissant, si j'ose dire, compensatoire à tout ce qu'il y a de desséchant, d'abstrait, de délocalisant, de déracinant la modernité, et que, en fait, elle ne se trouve pas dans la même situation que les États-Unis, qui sont une société qui ne veut pas avoir de passé, ou qui ne veut avoir de passé qu'un passé politique auquel se réfèrent ces hommes d'État, qui n'a pas eu d'image, ou qui n'a pas eu d'art pendant une bonne partie de sa jeunesse, et qui n'en a trouvé, en fait, que assez récemment, au cours du XXe siècle, et qui, d'autre part, a une adhésion au marché, à l'argent, à tout ce qui, au fond, relève de la pure et simple économie, qui, en Europe, évidemment, rencontre de profondes réserves très anciennes, et que malgré tous les efforts pour les supprimer, nous voyons toujours réapparaître. Alors il me semble qu'il y aurait plutôt de la part de l'Europe, et naturellement de la France dans la mesure où elle a toujours été, comme disait Dubellay, la mère des arts, peut-être un peu exagéré, un peu cocorico, si j'ose dire, mais enfin, il y a tout de même de cela. Elle a sinon été la mère des arts, du moins une des principales sources des arts européens. Eh bien, il me semble que ça serait tout de même une belle tâche et qu'il lui conviendrait de s'inventer autre chose que des copies ou des clones des vedettes américaines dans cet ordre. Je ne suis pas contre l'art qui vient des États-Unis. Il convient admirablement aux Américains, il convient à leur monde, à leur façon de voir le monde, et convient à la société qu'ils ont créée et où ils se sentent chez eux. Mais est-ce que c'est vraiment à nous de recopier, en fin de compte, en moins bien, ce que les Américains ont fait, au lieu d'aller chercher dans nos propres ressources profondes ce que nous pourrions offrir au monde, justement, comme compensation de cet univers que je déclarais délocalisé et dans lequel il est appelé, effectivement, de plus en plus souvent à se retrouver un peu au désert. Eh bien, nous devrions apporter, justement, ce qui compense le désert et non pas nécessairement ce qui l'illumine au néon.
Marc Fumaroli, dans votre ouvrage « Paris, New York et retour », dont je rappelle qu'il est publié chez Fayard, vous abordez bien d'autres thèmes qu'on ne peut pas malheureusement aborder dans le cadre de cette émission. Il y a plusieurs remarques aussi très approfondies sur la notion d'éducation qui serait bien intéressante à approfondir. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu venir dans le studio de Canal Academy présenter cet ouvrage. Vous y êtes toujours bienvenue et j'espère qu'on aura une autre occasion de vous recevoir. Merci, Monsieur Fumaroli.
Merci, madame.